soir, une trentaine de personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans le groupement Bambuka Kisiki et dans le parc national de Virunga, dans le territoire de Beni. Selon un communiqué officiel du gouvernement provincial du Nord Kivu, publié mardi 17 novembre, la découverte macabre des corps des victimes a été faite hier matin, au moment où 6 personnes ont été tuées et une autre blessée par balle lors d'une nouvelle attaque des rebelles ougandais des ADF dans la localité de Kokola, située entre Oicha et Erengeti. La société civile de Beni demande à l'armée congolaise d'intensifier les patrouilles dans cette région, mais aussi de collaborer avec la population pour les informations sécuritaires. Comment analyser cet énième massacre dans le territoire de Beni? Que devrait faire le gouvernement pour arrêter ces massacres à répétition? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 18 novembre 2020. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean Bosco Sebichimbo. Il est ministre provincial de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Jean Bosco Sebichimbo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Paul Mouindo, député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Il est président du caucus des députés du Grand Nord. Il est également cadre du parti politique RCD-KML. Paul Mouindo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Serge Gontcho, président du mouvement citoyen Conscience Nationale dans l'action CNA, en sigle, une initiative populaire qui s'appelle Congo de l'Est à l'Ouest. Serge Gontcho, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes très nombreux auditeurs des radios Kepi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Venance Amissi Malonga. Depuis Punia, dans le Maniema, cette énième attaque démontre à suffisance la banalisation du problème de la sécurité à l'Est et plus précisément dans le territoire de Beni par le gouvernement central. Comment expliquer que chaque jour qui passe, on compte nos morts sans aucune réaction ni du gouvernement ni de la présidence, encore moins du Parlement? Ils sont tous préoccupés par des positionnements politiciens pour les élections de 2023. Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, une trentaine de personnes tuées ces dernières 24 heures dans le groupement Bambuba, qui se situe dans le territoire de Beni, ainsi que dans le parc national de Virunga, secteur de Rwenzori. Selon un communiqué officiel du gouvernement provincial du Nord Kivu, la découverte macabre des corps des victimes a été faite hier mardi matin. Je vous propose de suivre cet extrait du communiqué lu par le porte-parole du gouvernement provincial, Sebichimbo Jean Bosco, à travers lesquels son gouvernement condamne ces meurtres et exprime la compassion des autorités provinciales envers les familles des victimes.
Les services spécialisés viennent de rapporter ce mardi une découverte des corps de 29 compatriotes exécutés en masse à Kavuyiri, en plein parc national de Virunga. Les mêmes sources signalent une attaque armée qui vient de coûter la vie à 6 innocents la matinée de ce même mardi 17 novembre 2020 dans le village de Kokola, en groupement Bambuba Kisiki, toujours en territoire de Beni. Les premiers indices sur les auteurs de tous ces actes innommables renvoient aux combattants ADF très actifs dans la zone. Le gouvernement provincial du Nord Kivu fustige avec force cette énième série de carnages des civils, réitère son entière solidarité avec les nombreuses familles durement affectées et réaffirme son engagement derrière les opérations militaires visant à mettre définitivement fin à ce calvaire qui n'a que trop duré.
Jean Bosco Sebichimbo, vous êtes ministre provincial de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Comment vous expliquez cette énième même massacre, alors qu'il y a des opérations de grande envergure qui se font dans cette partie du pays.
Oui, merci madame pour cette interrogation que vous nous destinez. En fait, il faut dire la première des choses, c'est continuer à adresser un message de condoléances à notre population qui continue à endurer les affres de la guerre avec les massacres qui se poursuivent dans cette région de Béni. Et également dire que finalement la stratégie de l'ennemi face à la pression militaire qu'exercent nos forces armées congolaises, bien entendu sous l'élite du commandant suprême, le chef de l'État, et à qui nous réitérons notre loyauté par rapport à tous ces efforts qu'il fournit pour qu'effectivement il puisse éradiquer cette question des ADF qui a trop duré. Il faut reconnaître que lorsque les forces armées ont pu presque détruire tous les bastions de l'ennemi, l'ennemi est resté fragmenté en petits groupes, groupes de 10, groupes de 5, et ce groupe a orienté ses objectifs sur la population, ce qui fait que notre population est devenue la cible. Au lieu d'avoir des objectifs militaires, l'ennemi qui est en débandade, évidemment en errance, a privilégié la piste de continuer à massacrer dans le souci de briser. Vous le savez, le mariage qui s'est installé entre notre armée avec la population et qui permettait effectivement de remonter le moral des troupes sur le terrain. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cet énième massacre que nous continuons à déplorer par rapport à nos populations qui continuent à être massacrées dans cette zone-là.
Alors Jean Bosco Sebichimbo, vous dites que après avoir détruit tous les bastions des ADF, le groupe s'est fragmenté. Ce sont ces petits groupes-là qui massacrent la population. Mais quand les faits se passent, où se trouvent les FRDC ou les services de sécurité? Est-ce que c'est difficile de maîtriser, de neutraliser ces petits groupes de 5-6 personnes?
Et effectivement, vous comprenez que lorsque l'ennemi se fragmente en groupe de 5, 10, des choses comme ça, et il essaie de contourner les positions de nos forces armées pour viser plus là où il peut massacrer la population. Et ce sont des stratégies maintenant que nos forces armées continuent à remonter, parce qu'effectivement, avec ces changements des stratégies ou des méthodes de guerre de l'ennemi qu'il impose à nos forces armées, ça signifie que l'armée est en train d'articuler encore une fois ses unités pour qu'effectivement, il adapte les unités qui sont sur le terrain sur cette méthodologie ou simplement cette stratégie qu'adopte l'ennemi. Nous pensons que en renforçant du côté des renseignements, avec cette articulation nouvelle qui est en train d'être montée sur le terrain, nous sommes sûrs que nos forces armées vont continuer à maîtriser la situation pour que, fin de fin, nous puissions venir à bout cet ennemi qui a longtemps vécu dans ces milieux. Vous savez que c'est plus de 30 ans que les ADF œuvrent dans ces coins-là. Voilà pourquoi ils posent un certain nombre de difficultés, parce qu'il s'agit de points qu'ils maîtrisent sérieusement.
Monsieur le ministre provincial, est-ce qu'il faut comprendre par là que dans tous les endroits où passent ces rebelles ADF, il n'y a pas la présence des FRDC?
Je veux vous dire que dans certains coins, effectivement, il essaie de faire les contournements. Il joue sur cette stratégie-là de contournement. Il voit là où il y a les positions des FARDC. Il essaie de les contourner. Mais également, vous le savez que plusieurs fois, nos éléments FARDC tombent dans les embuscades. Et donc, c'est ça ce que j'ai pu dire à ce niveau-là. Et donc, la stratégie de l'ennemi, c'est la stratégie de contournement pour ne viser que la population civile.
plus d'une année après le lancement des opérations de grande envergure dans le Grand Nord, est-ce qu'on peut parler d'échec de ces opérations parce que la population continue d'être massacrée?
Est-ce qu'il faut parler de l'échec face à ce massacre que nous continuons à déplorer tous? Je crois, jusque-là, il faut reconnaître que, comme je l'ai dit tantôt, que des bastions, beaucoup de bastions ont été détruits. Il faut reconnaître également que c'est une guerre qui ne se gagne pas automatiquement. Et ce que peut-être nous allons continuer à dire, c'est que toute la République devra se mobiliser tous les moyens de la République, en dépit, bien entendu, de la période de la crise sanitaire, pour qu'effectivement, sur le terrain, on sente que réellement toute la République a mobilisé ses moyens et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui alerte la République. Évidemment, on peut aller même jusqu'à cette solidarité internationale pour que effectivement nous puissions venir à bout cette guerre qui continue à emporter plusieurs vies humaines de nos populations.
Paul Mouindo, député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu, président du caucus des députés du Grand Nord, également cadre du parti politique RCD-KML. Paul Mouindo, comment vous analysez cet énième massacre dans le territoire de Beni?
Oui, je voudrais d'abord saluer tous les co-débatteurs avec lesquels nous sommes et corriger sur un fait que hier, avec amertume, nous avons perdu pratiquement 43 personnes. 43 personnes dont 29 ont été, 29 corps ont été totalement découverts au niveau de Kanyawiri, c'est dans le secteur Nzuri, et deux autres personnes avaient été tuées à Mayele, c'est proche ou c'est dans la commune de Boulongo, à secteur Nzuri. Et au-delà de cela, nous avions 16 personnes qui avaient également été égorgées au niveau de Kokola, là c'est dans le secteur Belimbaou, et 4 autres avaient également été égorgées au niveau de Baïti, et puis une maman qui a été portée kidnappée au niveau du PKS. Donc, ce qui nous donne le chiffre de 43 personnes au cours d'une seule journée. Et puis, à cela, il faut ajouter 7 autres personnes qui étaient blessées. Donc, vous comprenez, madame, que la situation est grave. La situation est grave parce que l'ennemi continue à agir où il veut et quand il veut, et sans totalement qu'il ne soit fortement inquiété. Et ça, c'est ce qui inquiète davantage la population. Et nous constatons que l'ennemi, par rapport aux données que nous recevons de la population, lorsque cet ennemi vient opérer, contrairement à ce que nous attendons de fois, cet ennemi a toujours formé un groupe de personnes. Ça veut dire composé des enfants, composé des femmes, composé de plusieurs hommes. Donc ce ne sont pas des groupes minuscules, n'est-ce pas, qui viennent attaquer ici et là. Non. En tout cas, d'après plusieurs témoins, ces gens peuvent venir assujettir un village, je crois par exemple à Missala. Ils avaient pris beaucoup de temps, ils étaient beaucoup de personnes. Et donc, je crois que ça, c'est la première précision. La deuxième précision qu'il faut dire, c'est que la présence de l'ennemi aujourd'hui, si on peut nous dire, si on peut se dire que bon voilà, l'ennemi est totalement réduit et qu'il n'a pas cette capacité et ils sont restés des petits groupes, il faut d'abord que nous puissions savoir que cet ennemi était estimé à combien au départ, au début des opérations, pour s'assurer que son nombre a totalement été réduit et qu'ils sont restés un petit groupe qui agit, n'est-ce pas, à minuscule, ou qui agit à groupe minuscule. Or, à ce que je sache aujourd'hui, et d'ailleurs d'après différentes communications de nos forces armées, beaucoup de bastions, certes, dans la partie où n'était pas beaucoup de population, ont déjà été récupérés. Notamment, on peut parler de Madina, on peut parler de vers Mayango, là il y avait quand même des gens. Mais on se réalise que beaucoup de bastions qui étaient récupérés, on dirait qu'il n'y avait plus assez de détruits dans beaucoup de ces bastions-là. Donc, on récupérait les bastions, sans pour autant donner le vrai bilan des ennemis
tués, tombés sur terrain. Ça, c'est un des grands problèmes qui fait jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'incapacité de savoir combien il nous reste à terme d'ennemis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans l'incapacité de savoir comment adapter la méthode par rapport à cet ennemi. Ce qui donne un résultat aujourd'hui, c'est un échec dans les opérations.
Alors, c'est la préoccupation de cet auditeur Kali qui nous écrit depuis Likasi dans le Haut-Katanga, qui se demande pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à ces tueries malgré toutes les propositions faites, pourquoi ça ne s'arrête pas.
Il faut dire très clairement que d'abord, pour ce qui concerne le Béni, les opérations qui avaient été lancées deux mois avant, ou deux mois après une forte médiatisation de l'opération. C'est que l'ennemi avait pris son temps de pouvoir quitter la zone et attendre que les opérations puissent se faire avec des petits groupes des individus. Et ce qui fait que, après les opérations, parce qu'à un moment il y avait une sorte de répit ou une sorte d'arrêt, l'ennemi maintenant est venu avec force pour lancer ses offensives. Et ça, c'est le premier élément qui fait qu'aujourd'hui on assiste à une sorte d'échec. Le deuxième élément, c'était une sorte de minimisation, n'est-ce pas, de cet ennemi. Il avait été dit, j'ai suivi même la société civile dans les mots que vous avez dit, la société civile a demandé à ce que l'armée, le service de sécurité s'intéresse aux alertes de la population. Pourquoi ? Parce qu'il avait été dit au départ que la zone dans laquelle étaient lancées les opérations, l'ennemi n'était plus dans cette zone-là. L'ennemi n'était plus du côté est, mais l'ennemi était du côté de l'ouest. Donc c'était exactement cela comme cela avait été dit. Donc on va lancer les opérations dans la zone où il n'y avait plus d'ennemis. Et ça, je prends le temps de la société civile qui n'avait jamais cessé d'alerter. Nous, les députés, nous avons également alerté. On avait même fait des notes pour demander à ce que les opérations soient lancées, soit simultanément au niveau de l'Est et de l'Ouest. Mais on avait lancé des opérations dans la zone où il y avait presque plus d'ennemis. Ce qui fait que les opérations qui étaient menées n'avaient pas la capacité ou n'ont pas la capacité de nous donner le vrai visage de l'ennemi qui a été anéanti à cette partie-là.
Est-ce qu'on peut dire
donc, on ne peut pas envoyer des militaires sur le terrain sans que ceux-ci ne soient totalement mieux pris en charge. Et là, nous parlons du détournement. Parce qu'au départ, il y avait des moyens qui avaient été détournés. Et après ce moyen, malheureusement, notre armée traverse des moments de difficulté. Donc, voilà des raisons qui font qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un échec, que l'armée n'est pas à mesure de protéger les populations, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, il faut imaginer des mécanismes nouveaux qui peuvent permettre à ce qu'on puisse mettre fin définitivement à cette guerre qui humilie honteusement notre nation.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la capacité des nuisances de ces rebelles n'a pas été réduite comme on l'a annoncé plusieurs fois par les autorités, tant politiques que militaires?
Il faut être réel et il faut être concret. On ne peut pas réduire la capacité d'un ennemi qui continue à agir, à tuer, à atteindre ses objectifs sans être atteint et sans être attaqué. Donc, c'était une sorte de campagne médiatique pour nouer les gens en disant qu'on a totalement réduit sa capacité. Je venais de vous le démontrer que les opérations étaient menées dans une zone où il n'y avait presque plus d'ennemis. Et aujourd'hui, cet ennemi vient de nous démontrer. L'exemple, c'est d'hier. Il a aussi opéré dans le secteur de Rosori, il a opéré à Mayele, il a opéré dans le secteur de Benimbaou, à plusieurs endroits. Donc, il a une capacité de pouvoir agir où il veut, quand il veut. Et nous n'avions jamais cessé de dire aussi qu'il y en a dans nos forces armées beaucoup qui sont fatigués, voyez, qui ont fait longtemps, qui doivent être renouvelés. Mais cela n'avait pas été fait. Et donc, tous ces éléments concourent à tous les échecs que nous observons dans la zone.
Merci.
Et donc, on doit imaginer de nouveaux mécanismes pour pouvoir mettre fin à cette tuerie qui humilie notre nation.
Serge Goncho, président du mouvement citoyen Conscience nationale dans l'action, c'est CLA en sigle, une initiative populaire qui s'appelle Congo de l'Est à l'Ouest. Chaque jour ou tous les jours qui passent, on compte des morts dans le territoire des Béni. Serge Goncho, comment vous analysez cette situation?
Merci madame. Je corrigerai d'abord, je suis le président du mouvement citoyen Conscience nationale en action. Chaque jour, nous enregistrons des morts dans le pays. Comment nous réagissons face à cette situation? Eh bien, c'est d'abord le constat d'un échec. Il faut appeler le chat par son nom et puis il faut reconnaître qu'on est malade pour pouvoir être guéri. Si étant malade, vous continuez à prétendre que vous êtes en bonne santé, eh bien, vous allez mourir, tout simplement. Non seulement vous, mais aussi vos enfants, la famille, le pays, on va continuer à avoir honte. Nous ne pouvons pour le moment, malheureusement, que présenter nos condoléances les plus fraternelles, les plus patriotiques à nos compatriotes de l'Est qui meurent en masse chaque jour. Alors, le constat qui est là, c'est quoi? Le constat se trouve à deux niveaux. C'est que d'abord, notre armée, elle est dépassée. Je ne dis pas seulement notre armée, mais il y a un gros problème militaire dans lequel notre armée n'est que l'un des composants. Et ce gros problème militaire a commencé depuis longtemps, il faut le reconnaître. Notre armée est démantelée depuis le jour où on a commencé à y intégrer des rebelles. Tout le monde sait, dans les académies militaires, on sait qu'on ne peut jamais composer une armée efficace avec des rebelles ou des mutins, même un seul. Mais avec toutes ces opérations de brassage qui ont eu lieu, eh bien, notre armée a été affaiblie intentionnellement pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut absolument s'attaquer au logiciel militaire. Qui doivent s'occuper de résoudre ce problème du logiciel militaire qui est en panne? C'est un problème très vaste. Nous allons dire que ce sont nos autorités politiques. C'est l'autorité politique qui gère également l'armée. Mais pourquoi ne le fait-elle pas? Parce que ça fait combien d'années nous avons été nous avons accueilli les immigrés rwandais ici en 1994, ça fait 26 ans, et chaque jour c'est le même discours, nous avons une réplique foudroyante, on est en train de gagner du terrain. Mais la victoire c'est par la paix, or la paix n'est toujours pas revenue. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans notre logiciel militaire. Il n'y a pas que notre armée qui est en défaillance. Et puis, si nous disons que notre armée est en défaillance, il ne faut pas avoir peur de citer le mal. Notre armée, elle est réellement infiltrée au plus haut sommet de l'armée. Tout le monde le sait, il n'y a plus de secret militaire. Une fois qu'il y a une attaque, une opération qui est commanditée à partir de Kinshasa ici, tout le monde sur le front, il est informé. Donc nous savons qu'il y a des gens qui informent l'ennemi de ce que nous faisons. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ces gens? Pas grand-chose. Et pourquoi on s'était devant ces choses-là? On peut poser la question à l'autorité politique. Je crois que très sincèrement, il faut interpeller l'armée. Il faut l'interpeller publiquement, qu'on lui pose des questions. Les gens ont peur d'interpeller l'armée parce qu'on dit les généraux, ils sont puissants, ils vont vous attaquer. Il y a des infiltrés ici. On ne peut pas parler de ces infiltrés.
Vous pensez qu'il n'y a pas de volonté de pouvoir mettre fin à cette situation, à ces massacres à répétition dans cette partie du pays?
La volonté est une chose. Le pouvoir est une autre. Nous voulons arrêter la corruption. Est-ce qu'on y est arrivé? Nous voulons analyser le problème objectivement, je dirais scientifiquement. Il faut prendre acte de la volonté du chef de l'État et des compatriotes, des députés pour mettre fin. Mais il faut qu'on se dise aussi objectivement pourquoi on n'y arrive pas. Si on a peur de poser cette question-là, eh bien nous sommes en train de nous mentir les uns les autres. Il faut qu'on interpelle publiquement l'armée. Pourquoi on n'y arrive pas? Il faut qu'on fasse le décompte là dans l'armée qui travaillent pour le pays et qui travaillent pour l'étranger. Il ne faut pas avoir peur d'attaquer ce ver qui est déjà dans le fruit. Parce que pendant que nous avons peur de l'attaquer, lui, chaque jour, il démantèle 20 personnes, 30 personnes. Et qu'est-ce que nous faisons en face? Il faut du courage pour résoudre ce problème. Donc ça c'est l'un des volets que je prends. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de volonté, mais il faut prendre le courage d'aller au-delà. Il y a un autre problème, il n'y a pas que notre armée, il y a aussi des armées étrangères qui sont ici sur le territoire national. Il y a aussi les implications de ceux qui fournissent des armes à ces groupes armés. Mais on ne les questionne pas. Comment est-ce que ces gens peuvent avoir des armes pour faire? C'est vrai, il y a des tueries à l'arme blanche, mais il n'y a pas que l'arme blanche. Il y a aussi du matériel de guerre en bonne et due forme qui est livré chaque jour par des gens qui se prétendent être les amis du Congo. Pourquoi on ne parle pas de ces questions ouvertement? Tant qu'on ne parlera pas de ces questions-là ouvertement, nous serons seulement en train de nous mentir. Nous devons poser publiquement la question de l'équation militaire du pays et ne pas avoir peur de déplaire à certains militaires qui occupent les hautes responsabilités au sommet de l'État.
Merci, on va vous redonner la parole, Serge Gontcho, le temps pour nous de prendre ces auditeurs qui ne cessent d'appeler. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Jean Bosco Sebishimbo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
C'est grâce à Makajika depuis la ville de Kisangani. Moi, je pense que ces massacres à répétition sont politiques. Car cette tuerie s'est faite aux yeux et aux oreilles de certaines autorités nationales et locales. Voilà pourquoi la population de ces régions sont des victimes. Vraiment, c'est déplorable de voir un frère congolais tuer comme s'il n'y avait pas une force armée congolaise pour exterminer ces rebelles. De ce fait, je demande à notre gouvernement et à lui-même, le chef de l'État, impliqués, car ils avaient promis d'installer un état-major dans le territoire de Beni. Et c'est aussi le moment où la Cour pénale internationale d'intervenir dans cette situation inhumaine.
Jean Bosco Sebishimbo, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Gracia Bakajika depuis Kisangani?
Oui, merci encore une fois pour cette occasion de pouvoir parler. En fait, lorsqu'on est en face d'une situation pareille où elle demeure inqualifiable, ça signifie que tout le monde peut évoquer la qualification de ces actes. Nous nous disons qu'il s'agit des actes de bestialité qui ont dépassé même l'entendement. Ce qui est important ici, c'est de dire que toute la République devra à se mobiliser effectivement pour voir si avec tous les moyens de la République on peut venir à bout tous ces ennemis qui nous prennent beaucoup de vies humaines.
Mais le gouvernement a mis des moyens pour ces opérations, Jean Bosco Sebishimbo.
Oui, c'est vrai que les moyens, le gouvernement de la République a pu mettre des moyens. Maintenant que la crise continue à s'amplifier davantage, ça signifie qu'on pouvait profiter en cette période où nos institutions sont en période budgétaire pour accroître plus les moyens que tout le monde sent que réellement à travers nos budgets. Nous mettons en priorité cette question des Beni pour que finalement, tous les moyens de la République, on puisse les sentir à Beni et toute l'armée mobilisée avec tous les effectifs pour qu'effectivement cette question puisse prendre fin. Donc voilà ce que je puis dire en évitant d'aller dans les qualifications tel que l'auditeur ou l'auteur de la question l'a voulu.
Alors, vous avez suivi notre analyste Serge Gontcho qui pense que si on n'arrive pas à mettre fin à cette situation aujourd'hui, c'est parce que l'armée est infiltrée.
L'armée est infiltrée, je ne sais pas. Il peut, vous savez, il ne suffit pas seulement d'alléguer les choses, il faut en apporter la preuve. Je sais que je ne peux pas entrer dans ces détails-là. Et si lui-même il a des preuves que réellement notre armée est infiltrée, il lui appartient de pouvoir en apporter la preuve. Ce que je sais est que l'armée fournit de gros efforts, même si les résultats au parfait ne sont pas encore là. Il y a encore à continuer à mobiliser notre armée pour que finalement on puisse atteindre effectivement les résultats escomptés. Voilà ce que je puis dire.
Paul Mwindo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Beni au nord Kivu.
Tout en reconnaissant la bravoure de nos militaires sur la ligne de front, sachant que la persistance de ces massacres résulte du fait que nos FRDC ont toujours donné des fonds rapports à leur hiérarchie. Les cas qui ont même été victimes de ces atrocités, voici les petites solutions que je propose. 1. Il faudra que le commandant des opérations mette d'abord les modes opératoires de l'État. l'ennemi. Car les informations que nous avons à notre possession nous font croire que les ADF sont scindés en plusieurs petits groupes. Car actuellement, vous allez vous rendre compte que la petite des populations est en train d'être tuée presque partout. La Sissima, Tabouka, Maniama. Deuxièmement, il faut lancer la deuxième phase d'opération qui aura pour obligation de consolider cette première opération. Ensuite, si possible, il faut passer à la permutation des officiers opérant avec leur groupe de cette zone vers une autre zone. Et deuxièmement, il faut appuyer la force terrestre par celle aérienne, c'est-à-dire l'usage des hélicoptères de guerre. Je pense qu'avec ces pistes de solutions, on peut aboutir à des solutions qui sont idoines.
Paul Mouindou, que devrait faire le gouvernement pour arrêter ces massacres à répétition? Cet auditeur qui nous a appelé de Béni a donné quelques pistes de solutions, entre autres appuyer la force terrestre par celle aérienne, passer à la permutation des officiers opérant dans cette zone avec leurs troupes. C'est des propositions déjà faites. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, en fait, je crois que c'est que l'auditeur de Béni veut dire. Vont vraiment sur Pesador et je les félicite pour cette analyse. Il a commencé par dire que l'armée a souvent présenté des faux rapports. Ici, je voudrais prendre pour le cas la situation de Farou, où l'ennemi qui a été venu attaquer en Baou avait l'alerte était lancée bien avant et l'armée connaissait mieux bien que l'attaque devait avoir lieu là-bas, autant que la MONUSCO. Mais après l'attaque, un porte-parole de l'armée avait déclaré haut et fort que c'était un conflit interethnique. Et ça, c'est effectivement des faux rapports. Et donc, il y en a autant. Et donc, des situations qui font que, au niveau, par exemple, des Kinshasa, les rapports qui sont présentés, peut-être par certains officiers ou je sais qui, présenteraient la situation de Béni comme un conflit entre les Nandé, les Mbouba, le Batangi, et tout ça. Et ça crée une confusion. Lorsqu'on est sur terrain par l'armée, et on présente la situation comme un conflit ethnique. Et puis, de deux, lorsqu'on peut présenter la même situation comme un conflit politique, où on dirait, par exemple, c'était un parti politique qui est en train de combattre un autre parti politique. Donc, des situations qui font que l'illisibilité, et cette manière de mal présenter le problème embrouille les solutions appropriées à ces problèmes. Et voilà pourquoi j'appuie cet auditeur qui pense qu'il est important afin qu'on puisse lancer la deuxième phase. Donc moi je me dis, est-ce qu'il faut lancer la deuxième phase de consolidation dans des milieux où l'ennemi est encore visible, parce que c'est ça le problème. Il faut reconnaître aujourd'hui que les opérations qui avaient été lancées le 30 octobre, ou mieux on peut dire même le 31 août, ont permis à ce que Mayango se soit stabilisé. Ça, il faut le reconnaître, parce que Mayangos, à un moment, avant ces opérations, était une zone inaccessible. Et donc, les opérations ont permis à ce que Mayangos, qui est centre pourvoyeur à l'agriculture de la ville de Béni, soit stabilisé. Et ça, c'est dans la ville de Béni. Mais dans les territoires de Béni, il n'y a pas eu de changement. Et ça, quand nous le disons, il ne faut pas qu'on nous traite les ennemis des états d'été. Nous devons voir clairement les choses. Dans le territoire de Béni, avant le lancement des opérations, il y avait des localités qui étaient encore habitables. Mais aujourd'hui, plusieurs localités ne sont plus habitables dans le territoire de Béni après les opérations et pendant les opérations. Et ça, nous disons que ce sont des situations qui méritent de les voir clairement. On ne doit pas continuer à mentir publiquement qu'il y a une forte avancée d'une manière globale de ces opérations-là. Il appuie, il dit, le même auditeur dit, il faut qu'on fasse une permutation. C'est très normal. Vous savez, madame, il y a des troupes qui sont parvenus à faire peut-être plus de 10 ans là-bas ou plus de 5 ans là-bas dans la zone de Béni. Ils doivent être permutés. Non simplement les troupes, il faut qu'on arrive à changer la chaîne des renseignements. Parce que si on arrive à changer la chaîne des renseignements, on peut facilement avoir des acteurs nouveaux capables de combattre les failles qu'il faut que l'ennemi peut être prévenu qu'il va venir attaquer à tel endroit, mais il vient, il attaque et il retourne. Donc, le manque de capacité d'anticipation. Donc, c'est à cause des non-permutations de certaines personnes qui sont totalement déjà sédentarisées. J'appuie également sa proposition par là d'un appui aérien. Et là, je reviens à la MONUSCO.
la MONUSCO, avec ses capacités militaires, peut facilement offrir un appui, parce que non simplement la MONUSCO dispose des drones, et donc avec un appui aérien totalement bien coordonné et des acteurs qui sont totalement engagés, on peut facilement mettre à déroute cette histoire. Et je reviens par ce que l'on peut dire, l'homme d'affaires civile, il faut effectivement le dire, les preuves d'infiltration de l'armée ne sont pas à chercher trop loin à Beni. L'armée est totalement infiltrée. Parce que comment comprendre qu'on peut venir attaquer, on peut venir faire une forte invasion de la prison et de Kangwaï, ça qu'il n'y ait pas de poursuite. Comment comprendre qu'il y a des ennemis qui parviennent à passer à travers des positions, les cas d'hier de Kokola. Ils ont attaqué entre deux ou trois positions. Donc c'est pour montrer qu'ils ont des gens qui les informent. Et peut-être au sein de l'armée, de certaines brebis galeuses, aussi la population. Donc, quand nous disons ainsi, ce n'est pas que nous sommes contre notre armée, mais nous sommes contre ces traîtres, contre ces infiltrés qu'il faut tuer, et les populations et d'autres soldats sur le champ de bataille.
Merci donc, Paul Mouindo. Serge Goncho, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu, sud Kivu.
Kitaba Mwangule Landry depuis la ville de Bukavu. Voici quelques questions que je me demande. Primo, aujourd'hui ça fait des années depuis qu'il est bien identifié au Gambie, soit on n'a jamais le fait, mais pourquoi la communauté internationale et l'Union africaine n'ont jamais mis pression à l'Ouganda pour le retrait de leurs citoyens? Secundo, connaissant que les rebelles sont véritablement connus comme les citoyens d'un pays voisin, pourquoi les dirigeants congolais restent-ils impuissants à ne pas faire la réciprocité? S'agit-il d'une complicité? Chers dirigeants, les Congolais disent trop c'est trop, et dans le moment venu, le peuple dirigera lui-même pour restaurer la paix à Beni et en RDC en général.
Serge Goncho, comment vous répondez aux questions des Landry depuis Bukavu?
Je remercie Landry qui fait une lecture cohérente et lucide. La question de l'affaiblissement de notre armée résulte d'une conspiration internationale contre le Congo. Et ça, je sais que ce n'est pas facile à dire, mais c'est bien ça, il faut éventrer le boa. Il y a une conspiration internationale contre le Congo. On a affaibli son armée, et c'est là pour faire l'exploitation des matières premières. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe à l'Est? C'est devenu une terre no man's land, et les gens exploitent là-bas au vu et au sud de tout le monde. Et on s'était là-dessus. Est-ce qu'il faut compter sur la communauté internationale? Il ne faut pas compter sur la communauté internationale parce que c'est elle-même qui est à la base de cette guerre. Nous le savons tous. Il faut vous parler de nos dirigeants. Est-ce que les dirigeants sont impuissants? Oui, les dirigeants sont impuissants. C'est comme le fonctionnaire est impuissant à nourrir sa famille et à scolariser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Il y a trop d'adversité. Les dirigeants ont la bonne volonté, mais ils se battent contre un système qui a gangréné l'appareil militaire. Ils se battent contre le système international. Et nous, la population, nous essayons de faire quelque chose, mais nous n'y arrivons pas. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la population, c'est là qu'on tue chaque jour, qu'elle se prenne en charge et que nous osions nous déclarer un audit de l'armée. Et c'est possible. On fait des audits sur les affaires militaires, les commerces et autres, mais on doit faire l'audit sur l'armée parce que il y a des complicités au sein de l'armée, et nous sommes capables en tant que citoyens de savoir qui est qui au sein de l'armée. Et nous demandons au gouvernement de soutenir les initiatives des citoyens qui veulent lui venir en aide. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Mais tant qu'on n'aura pas fait une vraie analyse de la problématique militaire, eh bien nous irons de promesse en promesse, et entre temps c'est chaque jour que nous allons mourir.
Jean Bosco Sebi Chimbo, nous tendons vers la fin de notre émission. Que devrait faire le gouvernement pour arrêter ces massacres à répétition?
Oui, merci madame pour encore une fois la question. J'ai à les souligner en passant que la première des choses, c'est que le gouvernement qui a engagé sur ce front de pouvoir arrêter les massacres qui se poursuivent dans la région de Beni, devra encore accentuer ou simplement amplifier la mobilisation nationale. Et il faut aller aussi vers cette solidarité internationale, parce que la guerre maintenant qui se mène dans la région de Beni a pris l'ampleur d'une guerre terroriste et donc, comme nous le voyons partout dans le monde, nous aurions souhaité que la République aussi puisse bénéficier de cet appui de la communauté internationale, comme nous le voyons contre le terrorisme dans le monde. Et des deux, je crois, je suis d'accord avec un auditeur qui a dit qu'il faut que la MONUSCO s'y mette à ses moyens. Vous savez, la MONUSCO qui a suffisamment de moyens, qui continue à appuyer notre armée, devrait encore aller au-delà pour que nous puissions arriver à la protection effectivement de ces civils qui continuent à être massacrés. C'est pas que nous sous-estimons l'apport que la MONUSCO fait, non, mais on aurait souhaité qu'elle aille plus loin pour que effectivement, de la même manière que nous avons anéanti les M23, nous puissions anéantir complètement les ADF.
Merci.
Voilà un peu ce que je puis dire. Donc, cette mobilisation nationale, c'est le camp où on les suit, tout le monde qui intervient, de gauche à droite, surtout que les amis de la République, on aurait souhaité aussi que les moyens de la République soient mobilisés pour que réellement nous puissions les voir sur le terrain.
Merci Jean Bosco, c'est Bichimbo. On va considérer cela comme votre conclusion. Je rappelle que vous êtes ministre provincial de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Paul Mouindo, vos propositions, résumez-les, hein, s'il vous plaît, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, d'abord, dans un premier temps, il faut une bonne évaluation des opérations Sokola, ce qui est totalement urgent. Il faut également arriver à doter des moyens importants à l'armée qui se bat au niveau des Béni. Il faut arriver aussi à adapter une stratégie. Parce que à Béni, il ne suffit pas d'avoir des moyens, mais c'est un problème de stratégie pour mettre fin à cette guerre. Et au-delà de cela, maintenant, on finit. Je crois que toutes les poursuites des tueries vont permettre à ce que la confiance soit totalement sortie de notre armée et même des Nations Unies. Je voudrais leur demander de multiplier davantage les efforts pour sécuriser la population. Et ici, je ne me pas à cause la proposition du Monseigneur, de notre évêque de Boutembo, qui a dit qu'il faut entrevoir des voies de se prendre en charge pour appuyer les initiatives de l'armée. Il ne faut pas que l'armée puisse s'attaquer contre des gens qui veulent se prendre en charge dans le cadre de pouvoir se libérer. Donc je crois que à force de ne pas sécuriser les populations, c'est ce risque-là que nous allons observer dans la zone et on sera dans l'incapacité davantage de gérer ce qui se passe là-bas. Et
merci.
Sur le plan diplomatique, il ne faut pas simplement exclure l'aspect, il ne faut pas seulement voir l'aspect militaire, mais il faut également explorer les discussions sur le voie politique et diplomatique, en ce qui est régional.
Merci Paul Mouindo, député national élu du territoire de Béni au Nord Kivu et président du caucus des députés du Grand Nord, Serge Gonto, président du mouvement citoyen Conscience Nationale en Action, une initiative populaire qui s'appelle Congo de l'Est à l'Ouest. Votre conclusion?
Eh bien, ma conclusion, c'est que j'encourage d'abord nos compatriotes militaires de l'armée. Nous sommes solidaires parce que ce sont nos frères, nos jeunes frères. Nous les encourageons et nous les soutenons. Nous encourageons aussi les populations à suivre les conseils de l'évêque de Boutembo. Je crois avoir entendu mon collègue en parler. La population doit s'organiser pour devenir une force qui doit venir en appui à nos dirigeants et à notre armée. C'est dans cette solidarité que nous aurons la solution. Les autres qui peuvent nous aider, ben c'est la cinquième roue de la carrosse. Il ne faut pas compter d'abord sur eux.
Merci Serge Gontio, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Guy Maté, Dola Madimba, Axel Gontio. Merci à Willem Lungamba qui était à la prise de son, présentation et coordination. Kelly Nkouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radio.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.